monde, comment vous allez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est un peu le bazar, hein, plein tournage. Vous avez l'habitude maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image est bonne? Je suis sur le réseau aujourd'hui, je ne suis pas en 4G. Donc, test, test. Salut Samuel. Yep. 5 sur 5. Nickel, on me reçoit bien. Bonjour tout le monde. Allez, on va commencer comme d'habitude en remerciant nos tipeurs du jour. On remercie Griffon, on remercie Blanchard, J-Corp, Jordan et Yotch. Merci beaucoup à vous, tipeurs, contributeurs, bénévoles, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous mettent des likes, tous ceux qui nous soutiennent. Grâce à vous, on est encore là. Le ménage à faire, eh bien écoute, bonne galère. Bonne galère à toi, bonjour à tous en tout cas. J'espère que vous êtes bien réveillés en ce mercredi matin. Et oui, normalement c'est Marion. Ceux qui se connectent que le mercredi pour voir Marion, eh bien vous l'avez raté, c'était hier. Désolé, nous en sommes désolés. Il y a parfois des changements, on vous fait des surprises. Décor studio d'enregistrement, oui, puisque vous le savez, je m'enregistre sur un green screen. Hein, vous avez découvert ma technique, comme je disais sur Twitter l'autre jour. De quoi on va parler ce matin dans TechScope? Eh bien, nous allons parler de Tech War, effectivement, la guerre sourde qui devient de moins en moins sourde entre les États-Unis et la Chine. Leur rivalité se transforme vraiment à couteau tiré et ça se passe dans le monde de la tech et de plus en plus. Tu es réveillé, tu reviens du boulot. Eh bien, écoute, bon courage, je suis le temps. On parlera également de Google. Google qui réclame la couronne du meilleur processeur quantique, puisqu'ils viennent de sortir un nouveau processeur 72, comment on dit, qubits Qubit. Vous direz quoi, qubit ou qubit? Comment on va dire ça? Bit au cube, oh, c'était un peu facile. Qubit, oui. Qubit, c'est mieux. C'est mieux. OK. On poursuivra en parlant de Spotify. Spotify qui s'attaque aux vilains pirates. Les gens qui piratent son service premium. Qubit, oui. On va dire Qubit. OK, la chatroom est d'accord, pour une fois. On parlera également de Google Lens. Google Lens qui arrive sur tous les Android. Joie! Sonner, trompette, résonner, commande, merde. Bon, bref, il est né le divin enfant. C'est résonner, musette. Bon, bref, on s'en fout. On parlera également, vous vous souvenez de la série qui maintenant est vintage, la vieille série Chuck. Chuck, il y a au bois, ouais, dedans. Merci, Nazado. Sonner au bois et résonner, musette. C'est ça, merci. Vous vous souvenez de Chuck? Chuck qui bossait dans un Geek Squad, enfin un genre Geek Squad, les réparateurs de Best Buy. On apprend aujourd'hui effectivement que cette série était basée sur des faits réels, puisque le FBI payait bien des réparateurs du Geek Squad pour avoir des informations et des documents. Hein, espionnage. On parlera également, avec un petit peu de tristesse, de Giroptique. Giroptique, si. Il y a des coupures, Samuel? Mince. Est-ce que vous avez tous eu des coupures? Bon, je vais peut-être basculer en 4G, alors. Ouais, OK, je vais passer en 4G. Alors, attendez, bougez pas. Hop. Est-ce que ça va mieux, là? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça fait encore des coupures? Toujours des coupures? Oui, toujours des coupures. OK, bon, je vais essayer de redémarrer l'app. Oui, je suis déjà passé en 4G, mais il doit y avoir un problème avec l'appli, alors. C'est pas un problème de réseau, là. 5 sur 5, me dit Nazado. C'est bon? C'est bon, là? Ça coupe plus? Dites-moi. Là, j'ai la moitié de la chatroom qui me dit que ça déconne, l'autre qui me dit que ça va. Bon, écoutez, on va continuer comme ça, on va voir. Ok. Son 5 sur 5, image 1 sur 5, c'est revenu. D'autres me disent 5 sur 5 que l'image est bonne chez eux. Bon, écoutez, si on m'entend, c'est le principal. Après, le problème, c'est qu'effectivement, s'il y a une mauvaise connexion ou un problème avec l'app, YouTube décide souvent de mettre le replay en 480 ou en 720. Donc, j'en suis désolé pour les gens qui regardent en replay. Oui, donc je parlais de Giroptique. Giroptique, vous en souvenez, j'avais fait le test de leur caméra il y a quelques mois et ils annoncent qu'ils mettent effectivement la clé sous la porte. Ils n'y sont pas arrivés. On reparlera un petit peu de cette aventure française de la caméra 360. On parlera également de poulet blockchain, pardon. Le poulet blockchain, c'est Carrefour qui l'annonce. Est-ce que c'est un effet de buzz ou du véritable blockchain? Eh bien, est-ce que c'est l'aile ou la cuisse? Eh bien, on en parlera. Et on terminera également par une anecdote qui s'est passée en Malaisie. Vous vous demandez pourquoi parfois Apple ne fait pas des Black Friday ou des soldes? Eh bien, cette histoire va vous expliquer pourquoi, depuis pas mal d'années maintenant, Apple ne fait plus de soldes ou de ventes flash ou ce genre de choses, parce que généralement, ça se termine mal. On en parlera en fin d'émission. Voilà, donc un sommaire bien dodu. On va s'y mettre tout de suite. J'espère que l'image, le son est revenu à peu près chez tout le monde et que nous n'aurons plus d'autres interruptions. Hein. Crossfinger. Je n'y peux rien. Hein. Le réseau, en théorie, là, en fait, pour tout vous dire, je suis image pourrie pour moi. Bon, attendez, je vais redémarrer l'app alors. Parce que si vous avez une image pourrie, ça me gêne quand même. Est-ce que c'est mieux là? Je vais attendre un petit peu parce que le temps que vous disiez tous que l'image est pourrie, généralement, je n'ai pas de retour tout de suite. Est-ce que c'est mieux? Ok. Bon, crossfinger. En fait, là, on est repas sur le réseau. Paradoxalement, c'est la 4G qui déconne ce matin. C'est la 4G qui déconne et là, le réseau a l'air meilleur. Les aléas du direct, mes amis, faites-en un tous les jours, vous verrez que ce n'est pas aussi simple. Les gens qui me disent, ah, mais t'as qu'à changer de réseau. Oui, bah, il y a des problèmes sur tous les réseaux, vous savez. Et parfois, ça vient de l'app, parfois, ça vient de YouTube. Ce n'est pas toujours facile. Allez, on commence. Un article que je vous conseille de lire parce qu'il est vraiment passionnant. C'est un article du New York Times sur la rivalité entre les États-Unis et la Chine qui s'aggrave de plus en plus et qui se déporte de plus en plus dans le domaine de la tech. Et ça devient vraiment une guerre industrielle, une guerre économique assez importante, avec aujourd'hui effectivement un point d'achoppement qui est le rachat effectivement de Qualcomm, enfin les hypothèses de rachat de Qualcomm par Broadcom, Broadcom étant basé à Singapour, Qualcomm étant basé aux États-Unis. Et de plus en plus, effectivement, les Américains, en tout cas le gouvernement américain, et surtout le gouvernement américain actuel, s'inquiète effectivement de cette mainmise de la Chine sur la technologie à force de rachat, à force de... Alors, ils sont accusés de plein de choses, de recopier des brevets, enfin d'imiter des produits américains, mais également de racheter des grosses sociétés américaines, de s'immiscer de plus en plus dans l'économie américaine. Et effectivement, aujourd'hui, si Broadcom rachète Qualcomm, c'est quand même toute une partie de la technologie, et notamment autour de la technologie qui va entourer la 5G. Bon, alors il y en a qui ont toujours des problèmes de réception, manifestement. Vous avez des coupures encore? Ça coupe sans arrêt. Bon, je vais essayer de tout redémarrer encore une fois. Ouais, mais si l'image est vraiment bonne, ça peut être... vraiment mauvaise, ça peut être... Ça peut être pas génial. Allez, j'essaie de redémarrer un dernier coup en 4G et puis on verra. Voilà. Hop. N'oubliez pas de redémarrer votre application aussi, hein, si vous avez des bugs. Ah, Nowtech Live, quelqu'un doit être sur le mauvais compte. Qui est sur le compte Nowtech Live? Merci de passer sur ton compte personnel. Ouais, enfin, chez Marion, il y a des problèmes aussi, hein, parfois, hein, de connexion. Bon, n'oubliez pas de redémarrer votre app aussi avant de gueuler dans la chatroom. Voilà. Donc oui, la personne qui est sur le compte Nowtech Live, je ne sais pas qui c'est, mais merci de redémarrer. Ah bon, c'était Langue de Geek. Ok. Ne pas démarrer avec le compte Nowtech Live, merci. Bon, je vais arriver à faire l'article. C'est bon, tout est bon. L'image est bonne, le son est bon. Ça va, votre café n'est pas trop froid. Vous n'avez pas mis du lait chaud dans vos cornflakes. Ok, nickel. Allez. On y va, on y va. Donc, effectivement, aujourd'hui, notamment autour de l'arrivée de la 5G, ça inquiète beaucoup les Américains, effectivement, si Broadcom rachète Qualcomm. Et d'une manière générale, quand on voit les investissements chinois dans l'économie tech américaine, ça inquiète le gouvernement américain qui a peur de perdre son lead sur tout un tas de sujets. Ce à quoi les gens de la tech disent: wow, mollo, 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 vous êtes bien gentil, Trump et compagnie, mais ça fait bien longtemps que la tech, nous, on travaille avec la Chine, on vend en Chine, on fait fabriquer en Chine. Nous, on ne voit pas le monde comme vous. Je déforme un peu leurs propos, mais c'est quand même ce qui ressort de la Silicon Valley et du monde tech américain, c'est qu'ils disent attention, en étant protectionniste, vous bloquez également l'économie telle qu'elle se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les sociétés tech américaines et même mondiales ont besoin du marché chinois, ont besoin de mix de capitaux. Aujourd'hui, la Chine, après avoir été, on va dire, dans un mode on imite, on copie des produits qu'on fait à bas prix de mauvaise qualité, on ne peut plus dire ça de la Chine aujourd'hui. La Chine aujourd'hui innove et surtout est leader dans certaines technologies. Ne serait-ce que prenez les drones, hein, avec DJI, les stabilisateurs chez DJI, en termes d'optique, ils sont en train de venir très fort. Sur la fabrication des processeurs, puisque tous les processeurs, bien sûr, ils sont fabriqués souvent sous des licences et avec de la recherche et développement qui est fait aux États-Unis, mais la fabrication même des composants, et Tim Cook l'avait très bien dit, aujourd'hui, par exemple, les Américains ne savent pas fabriquer des smartphones, ne pourraient pas faire des usines pour fabriquer des smartphones. On n'a plus la main-d'œuvre qualifiée. Je sais, il y a toujours l'image de la Chine, et c'est normal, il y a des abus du pauvre ouvrier chinois dans des entreprises qui travaillent dans des conditions extrêmement mauvaises, et ça existe encore en Chine, il ne faut pas avoir de la peau de sauce devant les yeux non plus, mais la Chine n'est pas que ça aussi. Aujourd'hui, il y a de la recherche et développement, il y a des ingénieurs chinois, il y a une évolution, et on ne peut plus envisager. Il faut arrêter aussi d'avoir une vision manichéenne du monde. La Chine n'est pas que Foxconn. La Chine n'est pas que le travail des enfants. Oui, c'est des problèmes, effectivement, qu'il faut résoudre en Chine et au Vietnam, maintenant, qui est en train de devenir la nouvelle Chine pour la fabrication de pas mal de choses. Regardez un peu vos étiquettes, vous allez voir le nombre de trucs qui sont en train d'être fabriqués au Vietnam. Parce que la Chine, ben, comme le pays devient de plus en plus riche, et ben, Les ouvriers chinois demandent de plus en plus d'argent. Enfin bon, on ne va pas refaire les cycles économiques, mais voilà. Donc, ce que disent les sociétés tech, c'est vous êtes bien gentil avec votre protectionnisme. Oui, bien sûr, il faut protéger les intérêts américains, mais attention à ne pas casser des accords qui sont en train de se faire et qui sont indispensables. Aujourd'hui, une entreprise tech, qu'elle soit française, qu'elle soit américaine, n'importe où, ne peut pas se dire « Ah, ben, il faut que je reste sur mon territoire. » La tech, c'est mondial. Toute entreprise qui se lance doit envisager le monde avant d'envisager son pays. Et bien sûr qu'il faut protéger ses intérêts économiques. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, genre open bar, libéralisme sauvage, ouais, venez nous piquer tous les emplois et tout ça. Mais d'abord, bah, y a des faits. Le truc, c'est que si on oblige ces entreprises à fabriquer dans leur pays, parfois d'origine, le coût de la main-d'œuvre n'étant pas du tout le même, on casse complètement leur compétitivité. Donc, on va dire, OK, on va surtaxer les produits qui viennent de Chine parce que eux, c'est dégueulasse, ils payent leurs ouvriers moins cher. Mais si ça marchait aussi simplement, ça serait simple à résoudre ce genre de problème. Mais encore comme d'habitude, des solutions simples à des problèmes complexes n'engendrent que du chaos, généralement. Et quelque part, c'est exactement ce que disait Tim Cook pour Apple. Vous êtes bien gentil à dire qu'il faudrait qu'Apple fabrique ses smartphones aux États-Unis, mais il n'y a plus la main d'œuvre. Et les ouvriers américains n'accepteraient pas, effectivement, de travailler sur des chaînes telles qu'on en a, telles qu'on les conçoit encore. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va remplacer tout ça par des robots. C'est pas ça qui va recréer des emplois. C'est des problèmes complexes. Je veux même pas rentrer dans comment on va solutionner ça, parce que ça me donne mal à la tête. Mais attention, effectivement, à ne pas avoir une vision simpliste du monde. La Chine aujourd'hui est un acteur important et à travers l'histoire, n'oubliez pas quand même que la Chine a été un pays dominant du monde dans son histoire pendant très très longtemps. Ça m'énerve quand j'entends des gens qui ont une vision de la Chine genre c'est presque un pays du quart monde qui est en train de réussir. La Chine a été un empire pendant que nous on était en train de renifler pour trouver des truffes. Hein. Bref, bon, je m'égare. Mais attention effectivement à nos vues un peu primitives du monde et nos courtes vues, on va dire. Après, c'est sûr que l'économie américaine et la tech américaine, d'une certaine façon, est en train de perdre sa domination mondiale qu'elle a eue depuis les années 80, on va dire. Toutes les innovations, enfin... La plupart des innovations, en tout cas, qui sont arrivées dans le marché grand public, ont été américaines. Et c'est une évidence que le prochain Apple, le prochain Microsoft, le prochain GAFAM sera chinois. Et il l'est déjà. Regardez Xiaomi, regardez DJI, regardez Alibaba. Aujourd'hui, c'est des entreprises de taille absolument mondiale et qui sont en train de grignoter des parts de marché sur tout le reste. C'est la mondialisation, ma bonne dame. On peut la regretter, mais elle est là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est plutôt ça la question sur laquelle on devrait se concentrer et pas essayer de s'arc-bouter à oh, « c'était mieux avant, comment on fait pour revenir en arrière ?» Mais bon, bref, ça c'est moi. Et n'oubliez pas, comme le dit effectivement Fabrice, parce que 1 350 € l'iPhone 10, c'est le bon prix, j'extrapole, mais est-ce qu'aujourd'hui, on serait prêt à payer le prix d'une tech qui serait fabriquée en Europe ou aux États-Unis? J'en suis pas du tout sûr. Mais pas du tout sûr. Et donc, nous, consommateurs, on a également notre part de responsabilité dans le monde tel qu'il est. Voilà, voilà. Allez, on continue effectivement ce matin. Annonce, petite annonce de Langue de Geek, justement. Langue de Geek qui se trompe de compte en se connectant dans la chatroom. Langue de Geek qui vous fait une petite pub pour sa dernière vidéo de 5 minutes. Alors, d'un commun un accord, parce qu'on a discuté avec Langue de Geek, je lui ai dit attention de ce que tu mets dans tes vidéos. D'abord, petit rappel quand même sur tout ce qui est crypto-monnaie. Investissez l'argent dont vous n'avez pas besoin. Attention, les investissements en crypto-monnaie sont des investissements qui vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre. Aujourd'hui, personne ne peut vous garantir l'une ou l'autre des hypothèses. Ce n'est pas un gagnant à 100% sûr. Donc attention, si vous investissez, prenez-le d'abord comme quelque chose de ludique et n'y mettez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour les études des enfants, pour acheter votre maison, pour votre tapis de sécurité, etc. N'essayez pas de vous dire « Ah, il faut que je mise gros pour gagner gros » parce que vous risquez de perdre gros aussi. Voilà. Surtout, effectivement, en ICO, la naissance d'une crypto-monnaie qui n'a pas encore coté sur le marché, ce dont vous parle d'ailleurs Langue de Geek. La vidéo qui fait également, il vous annonce que c'est une vidéo sponsorisée. C'est une vidéo sponsorisée sur... Merde, j'ai oublié le nom du produit, si tu peux le remettre. Langue de Geek, tu aurais dû me le mettre dans ton texte. Parce que j'ai vu que le début de la vidéo, j'ai pas vu le temps de voir le reste. Mais en tout cas, un produit qui est développé par, effectivement, une équipe française de Sophie Antipolis, Krill, voilà. Il vous parle d'un logiciel Krill qui va vous permettre, si j'ai compris le début, d'automatiser de manière simple un certain nombre de processus d'investissement dans les crypto-monnaies. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, allez le voir sur, effectivement, languedegeek.fr et sa chaîne YouTube. Vous y trouverez également des tutos pour les débutants, des lives d'une heure en binôme, toutes les semaines à 21h, généralement le mercredi. Et également des vidéos tech comme une de ces dernières qui est comment cloner son vieux disque sur un SSD en 3 clics. Voilà. Effectivement, Langue de Geek, habituez-vous à son débit. Bref, merci en tout cas Langue de Geek d'avoir passé ton annonce sur la chaîne. Et on enchaîne, justement. On enchaîne, on va parler de Google. Google qui annonce effectivement aujourd'hui, qui réclame la couronne pour avoir fabriqué l'ordinateur quantique, le processeur, pardon, quantique, le plus puissant du monde. C'est effectivement pas moins que 72 qubits. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air gros, hein. C'est mieux que 50 qubits que faisait IBM avant. Là, Google arrive avec un processeur de 72 qubits en disant bah, « c'est le plus gros du monde ». Il faut savoir que leur ancien processeur chez Google faisait 9 qubits. Ça fait un peu qubit 20 hein, quand même. Hein. Peut-être falloir trouver un nom plus sexy. Hein. Alors, c'est un 9 qubits. J'ai un processeur 9 qubits. Parce que le 72 qubits, j'ai pas tenu. Je me suis overclocké. N'importe quoi, Jérôme. Alors, vous ne savez pas ce que c'est qu'un processeur quantique ? Eh bien, moi non plus. Et ne comptez pas sur moi pour vous expliquer. Le quantique, ça dépasse mon cerveau. J'ai vraiment du mal. Tout ce que vous avez à savoir, c'est quand on y arrivera vraiment à faire des ordinateurs quantiques, eh ben on aura des ordinateurs vachement plus puissants que maintenant. Et finalement, il n'y a que ça qui compte. Hein, c'est d'avoir des ordinateurs plus puissants. Arrête, Jérôme, j'en ai deux dans ma chambre. T'as quoi ? T'as deux qubits dans ta chambre ? C'est pas bien. Ça dépend. Alors, il y a des problèmes aujourd'hui sur les ordinateurs quantiques. C'est effectivement je comprends pas pourquoi, mais en tout cas, le problème aujourd'hui, c'est leur taux d'erreur. Ils font beaucoup d'erreurs, manifestement, et qu'il faut... je pense des algorithmes ou un coprocesseur ou une partie dans le processeur qui corrige ces erreurs. Et effectivement, il faut arriver à corriger. Alors voilà, aujourd'hui, ils ont démontré par exemple qu'avec un processeur de 49 qubits, ils arrivent à arriver à un taux d'erreur de 0,5%, ce qui a l'air pas mal. Quantique, c'est comme les notifications YouTube. Je sens qu'on va avoir... Merci beaucoup, Langue de Geek, pour ta participation. Les euros, j'en ai plus besoin. Bah écoute, si t'en as plus que ça, hein, vas-y, hein, tu décharges tout sur nous, hein, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas pour ton super chat. Vulgairement, la quantique, c'est beaucoup trop compliqué à expliquer en deux lignes. Merci Fabrice. C'est pas simple. C'est voilà. C'est pas simple, mais à la limite, on va s'intéresser à ce qui nous intéresse. Quand est-ce que ça arrive? Est-ce que ça va être plus puissant? Est-ce que ça va être trop cher? Finalement, il n'y a que ça qui nous intéresse. Soyons honnêtes. On s'en fout un peu de comment ça marche. Est-ce qu'on va pouvoir faire tourner Overwatch, Fortnite et PUBG dessus? C'est ça le plus important. On s'en fout des trucs quantiques. Est-ce que je vais avoir ça dans mon Apple Watch? La quantique, c'est tout petit, petit. Ou pas? Bref, en tout cas, on n'y est pas encore. Les ordinateurs quantiques, mais il y a une vraie... Et ce qu'il y a de plus intéressant, là je parle sérieusement, dans cette course, c'est de voir que Google y est. Google, en tant que fabricant hardware, et en recherche hardware sur des processeurs. Est-ce que Google va être un leader justement sur ces nouveaux processeurs quantiques? C'est intéressant. IBM est dans la course, Microsoft aussi dans la course, des startups sont dans la course. Est-ce que ça va redéfinir l'informatique de demain? Beaucoup disent oui, ça sera une évolution aussi importante que l'arrivée des transistors dans la tech. On verra. On n'y est pas encore, mais on verra. Surtout qu'en Chine, ils ne sont pas qualifiés pour cette technologie. Ah, tiens hein. Alors, on a un début d'explication par le tutoriel qui nous dit « Les processeurs classiques fonctionnent de manière séquentielle. Les processeurs quantiques, c'est du multiprocessus séquentiel fonctionnant en parallèle. » Ok. On rajoute des cœurs, du cache et on grave plus fin, mais aucun gap de perf. Bon. Si vous lisez la chatroom, et ceux qui regardent le replay, je vous rappelle que la chatroom est disponible maintenant en replay si vous regardez sur YouTube, vous aurez toutes les explications de notre magnifique chatroom. Les processeurs quantiques vont demander une réécriture complète des OS. Oui, ça, c'est à mon avis, c'est certain. Mais bon, ça va vraiment plus vite. Et que je peux jouer en Fortnite en 8K dessus, moi, c'est tout ce qui m'importe. Je caricature. À peu près. Allez, on continue. Pour ne pas trop s'attarder sur l'article, on va parler de Spotify. Spotify qui prépare son IPO, son entrée en bourse, et qui du coup fait un petit peu le ménage. Et aujourd'hui, si vous êtes un vilain qui pirate les services Spotify, c'est-à-dire en utilisant des applications tierces, qui permettent de profiter de l'offre gratuite de Spotify, mais sans entendre les pubs. Et bref, eh bien, vous êtes un pirate. Eh bien, Spotify, et elle dit, c'est fini. On en a marre des gens qui bouffent gratis. Hein, attention, si on va vous désactiver votre accès si on détecte que vous utilisez une application autre que notre application officielle. Donc, moi, j'y suis plus depuis pas mal de temps chez Spotify, mais je suppose qu'effectivement, il y avait un certain nombre d'apps qui permettaient, avec son compte Spotify ou un autre compte anonyme Spotify, un compte gratuit, de pouvoir bénéficier effectivement au maximum des services Spotify, qui coupait la pub et qui faisait des trucs comme ça, eh bien, Spotify avait peut-être laissé faire, ça permettait de grossir son nombre d'utilisateurs, mais là, maintenant qu'ils vont rentrer en bourse, eh bien, il faut aligner des chiffres, il faut aligner une rentabilité, le nombre des utilisateurs. Merci beaucoup, SMG, pour ton super chat. Génial, je sais faire des super chats avec l'iPhone. Par contre, alors, si ton chiffre est arrondi, c'est parce que Apple prend une partie de ton super chat. Ça doit être les fameux 30%, à mon avis, qu'ils ont négocié un peu plus bas. Donc, tu payes un peu la taxe Apple. C'est pour ça que Je vous dis, c'est cool de pouvoir faire les super chats sur iOS, mais si vous avez un ordinateur sous la main, vaut mieux le faire avec votre navigateur. On va peut-être pas en grossir, enfin, on va peut-être pas faire grossir un petit peu plus Apple avec notre super chat non plus, hein? On n'a peut-être pas vraiment envie de ça. Alors, on en a souvent parlé des 30% d'Apple. D'une certaine façon, moi, je trouve que les 30% sont trop hauts. Après que Apple prenne, faut pas oublier quand même que toute leur presta autour des applications, bah, ça a un prix. Alors, ils n'hébergent pas les applications, hein, il faut payer son propre serveur, mais ne serait-ce effectivement que la maintenance de l'Apple Store. Et n'oubliez pas que contrairement à Google, Apple ne collecte pas les données, donc ne fait pas d'argent avec les données de ce que vous téléchargez. Google Play, ouais, c'est gratuit, mais c'est de la collecte de données aussi. Ne perdez pas ça de vue. Donc, on peut s'offusquer que Apple prenne 30%. Moi, je m'offusque que ça soit 30%. Je ne m'offusque pas que Apple se serve au passage. Voilà. Mais ça, c'est moi. Bref, on a déporté le débat et vous m'avez complètement fait sortir de l'article. J'y reviens. Donc, bah voilà, il fallait s'y attendre. Effectivement, Spotify se met en ordre de bataille pour son IPO, son entrée en bourse. Donc, ne veut plus de gens qui bénéficient de son service gratuitement. Encore une fois, je pense qu'ils ont laissé faire. Ben, c'est fini. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent ce type de service tiers, mais attention, Spotify a averti que c'était bientôt fini. Fini pour vous. On va parler de Google Lens. Google Lens, joie, bonheur, va arriver sur tous les Android qui utilisent Google Photos. Alors, qu'est-ce que c'est que Google Lens? Ce n'est pas une nouvelle lentille sur votre objectif. C'est simplement le fait de pouvoir, avec TensorFlow et l'intelligence artificielle, détecter le contenu de vos photos de manière de plus en plus pertinente, identifier que ce soit les monuments, que ce soit les éléments, que ce soit du végétal, que ce soit de l'humain, que ce soit une marque, que ce soit un menu, identifier le contenu de vos photos en l'indexant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et les démos sont assez impressionnantes, vous le savez, quand vous mettez une photo sur Google Photos, elle est complètement indexée, ce qui rend le classement absolument génial, parce que si vous cherchez toutes vos photos de chiens, il va les trouver. Si vous cherchez toutes vos photos prises dans certains pays, il va les trouver. Et il fait tout ça automatiquement. Donc, n'oubliez pas, par contre, effectivement, qu'il fait ça, tout ça automatiquement et gratuitement. C'est pas gratuit. On est chez Google. Ils font de la collecte de données. Anonymisées, certes, mais ils extraient des données marketing de vos comportements photographiques et de votre base de données photographiques. Donc, il faut juste en être conscient. Je ne dis pas que c'est le mal. Il faut savoir ce qu'on fait. S'il y a des photos que vous voulez vraiment, si vous voulez vraiment les garder, effectivement pour vous, il y a des informations, vous ne voulez pas qu'elles soient utilisées, ne les mettez pas sur Google Photos et ne les passez pas par Google Lens. Il faut juste le savoir, il faut en être conscient. Après, moi j'avoue, qui utilise Google Photos, c'est absolument génial la manière dont les photos sont classées. Et il y a de plus en plus d'intelligence artificielle, effectivement, dans les photos. Là, avec Google Lens, ça va le faire en temps réel. Et voyez-y aussi les progrès que ça va permettre à la photo smartphone, comment ça va lui permettre de progresser. Aujourd'hui, on a vu justement qu'on arrivait à simuler des fausses faibles profondeurs de champ avec une compréhension mathématique d'une image. Par soit un double capteur, soit une lecture de l'image par intelligence artificielle, mais plus cette intelligence va évoluer, imaginez un appareil dans lequel l'appareil arrive à détecter qu'il y a un sujet humain en premier plan et que l'arrière ne sont pas des sujets humains, que cette télé, elle est à 2,50 m du sujet humain, mais que ce parapluie, il n'est qu'à 1 mètre, qu'à détecter effectivement tous les éléments et à les identifier, il pourrait du coup faire, par exemple, un effet de faible profondeur de champ beaucoup plus réussi que ce qu'on a aujourd'hui. Il pourrait, là, les problèmes d'autofocus aussi n'existeraient plus, parce qu'à partir du moment où il aurait identifié que ça, c'est l'être humain, mais vraiment... Et ça ira beaucoup plus loin que du face, enfin juste une détection du fait que ça, c'est un visage. Il pourra reconnaître que c'est Jérôme. Il connaîtra aussi les cheveux de Jérôme. Et il arrivera à découper ce petit cheveu-là et pas le flouter avec le fond. Vous voyez ? Ah oui, l'intelligence dans Apple Photo, ouais, on est très loin de ce qu'il y a dans Google Photo. Ouais, ça, c'est clair. Mais bon, au moins, tes photos... Dans photos d'Apple, elles ne servent pas aux données marketing. Elles ne sont pas revendues. Aujourd'hui, ça va presque être un vrai choix. Hein. Quelque part, garder son anonymat, ne pas se faire utiliser ses données, ça va coûter plus cher et ça ne sera pas forcément aussi performant que les intelligences artificielles qui collectent nos données, quoi. Ça va être un peu le monde dans lequel on va vivre. Voilà, voilà. Donc, Google Lens arrive sur tous les Android qui auront Google Photos d'installer. Donc, bonne nouvelle pour certains, nouvelle terrifiante pour d'autres. Difficile de reconnaître des cheveux de Jérôme qui vont être de plus en plus blancs. C'est pas vrai! Mais regardez, c'est... Ouais, ok, il y a quelques cheveux blancs. Mais en fait, j'ai un blond cendré, on va dire. Là, oui, là, c'est blanc. Mais arriver à faire la différence entre là et là, quoi. Ah ! Non, mais après, je m'en fous. Je suis très content d'être poivre et sel, moi. Il y a de plus en plus de sel, on est d'accord. Et au moins, je ne les perds pas, moi. Hein ? Regardez, là, hop ! Là, hop ! Hein, c'est du solide, ça se tient. Moi aussi, j'ai un bon cendré Nassado. On se comprend avec Nassado. Je trouve dingue qu'Apple communique aussi peu sur sa façon de voir la vie privée. Ils le font de plus en plus quand même, Vincent. Indifférence totale de ma part, j'utilise Open Camera. Voilà. Choisis ton camp, camarade. Allez, on continue. Le Geek Squad, est-ce que vous connaissez le Geek Squad? Est-ce que certains... Alors, question à la chatroom. Est-ce que vous regardiez la série Chuck? Qui connaît la série Chuck? T'as du givre sur les taupes? Sur les tempes, tu veux dire. Alors ça, hein, juste quand même. Mes cheveux blancs, là, mes pattes blanches, je les ai depuis l'âge de 25 ans. Mais honnêtement, à 25 ans, j'avais ces pattes complètement blanches. Et à cette époque-là, tout le monde me demandait si je me déteignais les pattes, ce qui serait complètement stupide. Mais bon, bref, on s'en fout. Non, pas Chuck Norris, la série Chuck. Oui, oui, qu'est-ce ? Coucou, Caribou. On signale la mort du focus. Vu quelques épisodes. Bon, souvenez-vous, il travaillait. C'est alors, est-ce qu'on n'a pas l'équivalent à la FNAC mais en gros, un Geek Squad, c'est très connu aux États-Unis. C'est un peu comme le Genius Bar chez Apple. C'est des mecs qui réparaient et qui réparent d'ailleurs toujours votre ordinateur. Enfin, c'est les geeks de service. Qui bosse dans des services de réparation. Et Geek Squad était un des plus connus parce que c'est le service de Best Buy. Best Buy qui est un peu le mongolais. Ouais, mais il n'y avait pas des mecs avec un uniforme. Geek Squad, ils ont un uniforme, ils ont des véhicules. Voilà, c'est vraiment le Geek Squad, quoi. C'est les geeks qui viennent tout réparer. Oui, dans Chuck, c'est Buy More. Hein. Bien sûr, ils n'ont pas eu... C'est pas Best Buy. Et d'ailleurs, ils s'appellent le Geek, je ne sais pas quoi. Enfin, ils ont un autre nom que Geek Squad. Nerd Herd. Ah, c'est ça le nom dans Chuck ? Nerd Herd ? C'est peut-être ça, je me souviens plus. En tout cas, dans la série Chuck, effectivement, ce mec qui bossait dans un Geek Squad était en fait un espion de la CIA. Eh bien, ils étaient peut-être pas si loin que ça de la vérité, puisque on apprend que c'est pas la CIA, mais c'est le FBI qui payait des gens du Geek Squad pour avoir des informations et des documents. On a retrouvé des traces de paiement de $500 pour avoir des documents. Alors, il faut faire le tri. Effectivement, Geek Squad, comme on leur ramène souvent des ordinateurs, ils ont le devoir, mais ça c'est un devoir, on va dire, civique, de signaler si un imbécile terroriste leur amène un ordinateur ou, et c'est ce qui s'est passé, un pédophile amène son ordinateur à réparer et que le mec de Geek Squad tombe sur les photos sur le disque dur, il a bien évidemment l'obligation de le signaler aux autorités. Mais ce qui pose problème, c'est si les autorités le payent pour ces informations-là. Et manifestement, c'est ce qui se passait. C'est que le FBI invitait des mecs qui bossaient dans le Geek Squad pour les former au sein du FBI pour procéder à des pré-investigations, en fait, sur des ordinateurs. Et là, c'est beaucoup plus touchy. C'est beaucoup plus touchy parce que le FBI n'a pas le droit de payer comme ça des gens pour faire de la collecte d'informations. Quand on amène son ordinateur à réparer, c'est pas non plus pour que le FBI puisse fourrer son nez dedans quand ils ont envie, a priori. Donc ça pose problème, et ça pose problème également à Best Buy. Et Best Buy qui, du coup, s'est fendu d'un communiqué en disant les 5 en gros qui se sont fait choper, il y en a 4 qui bossent plus de chez nous, mais il y en a un, il bosse encore, mais en gros on l'a mis à la photocopieuse pour le punir. Qu'il est bien évident que Best Buy n'autorise absolument pas ses employés à récolter de l'argent ou à être payés pour transmettre des informations au FBI, mais renouvelle effectivement le fait que les Geek Squad des Best Buy seront vigilants effectivement à toute donnée sensible qui doit être communiquée aux autorités, et qu'ils le feront. Si effectivement quelqu'un de dangereux amène son ordinateur à réparer, il est du devoir, comme n'importe quel citoyen, de prévenir les autorités. Donc ça, il continuera à le faire. Mais il précise également que Best Buy va s'occuper maintenant de la formation de ses employés du Geek Squad pour les former à trouver effectivement ce type d'informations, ou en tout cas à pas tomber dans le panneau et ce genre de choses. Mais justement, c'est tout le problème. Qu'est-ce qu'une donnée sensible et qui sait reconnaître? Je vous prends un exemple. Ce que je vous ai dit là, de ce médecin pédophile qui s'est fait choper. Bon, manifestement, c'était vraiment flagrant. Maintenant, imaginez-vous, vous travaillez dans un Geek Squad. On vous amène à un ordinateur et vous, en disant « Oh là là, mon disque dur a craché, j'ai perdu toutes mes photos, machin. » Vous arrivez à réparer l'ordinateur et vous vérifiez pour la personne avant de lui rendre que les photos sont là. Et les 3 premières photos que vous voyez une petite fille nue. Oh mon Dieu! Donc, appel des autorités, attention, c'est un problème. Est-ce que vous avez suffisamment d'informations et de recul pour pas être sûr que c'est des photos de son enfant à lui? Peut-être. Vous voyez, je suis pas. La démonstration n'est peut-être pas extraordinaire, mais tout après peut être une question d'interprétation. Aujourd'hui, où effectivement le terrorisme et la pédophilie sont les trucs qui sont, on va dire, le plus dans le viseur de ce qui est socialement répréhensible, et c'est tant mieux, hein, attention, je ne suis pas en train de dire le contraire. On a la moindre accusation peut faire très très mal. Même si c'est son enfant, selon comment les photos, c'est chelou. Oui, non, mais c'est pour ça que mon exemple n'est pas le même. Mais tout est une question de contexte aussi. Bah, Je sais pas vous, mais moi, oui, il y a des photos nues de moi qui existent. Il y a des photos nues, hein, quand j'étais bébé. Il y a même une photo de moi en train de faire pipi sur la blouse du médecin. Ah, vous savez tout. Mais non, vous n'aurez pas la photo. Je vous la cache. Oh, mon Dieu. Mais tout ça pour dire, attention, on ne va pas partir dans un autre débat. Tout est une question de contexte et qu'il faut faire très attention. Il y avait cette histoire, il n'y a pas si longtemps, d'un photographe qui faisait une série de photos sur les piscines. Et effectivement, qui s'est fait agresser même physiquement par des parents parce qu'il prenait des photos. Alors oui, il y avait des enfants en maillot de bain. Mais c'est des débats extrêmement compliqués parce qu'on pourrait dire, oui, bah, il n'a qu'à pas faire une série de photos sur les piscines. Ouais, j'ai envie de dire, après, la liberté artistique aussi, c'est compliqué. Tout ça est compliqué. Il va y avoir un hack du compte Google Photos de Jérôme bientôt. Ouais, c'est fort possible. Et justement, cette photo n'y est pas, vous voyez ? Claude François disait à la télé devant des millions de gens qu'il aimait les mineurs. Oui, il y a aussi le contexte de l'époque. Ça n'excuse rien. Encore une fois, ça n'excuse rien. Mais années 60-70, il y avait un autre regard. Regardez la terrible et dramatique histoire. Et je ne le plains pas, hein, attention. Hein. Pour moi, ce qu'a fait David Hamilton est hautement répréhensible. Mais il faut quand même regarder les choses, toujours, avec un contexte d'époque. Exactement, Victor, c'est exactement ce que tu dis. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a de l'argent en jeu et qu'on paierait des gens qui réparent des ordinateurs pour donner des informations, déjà, tu donnes un prisme avec l'argent. Le mec va être beaucoup plus zélé à trouver des informations. Bon, on est en train de s'engager sur un débat que je ne voulais pas du tout avoir. Et d'ailleurs, ce qui ne doit même pas être un débat, je le répète, même s'il faut contextualiser, ça reste condamnable. Ce qui s'est passé, par exemple, dans l'histoire de David Hamilton, il reste... c'est horrible ce qu'il a fait, ce mec-là. Ce que je dis juste, et il y a plein d'histoires comme ça, ce que je dis juste, c'est que c'est vrai que l'époque, notamment les années 70, et l'hyper-libéralisme sexuel qui a eu, on va dire, 70-80, a engendré énormément de comportements déviants et de dérapages qui, dans certains milieux intellectuels, machin, étaient presque cautionnés. Voilà. Mais ça n'empêche que c'était des comportements selon nos valeurs qui... Bon, enfin bref. Hey, parfois, c'est dur à la chatroom, hein. À essayer de me mettre dans le coin, là. Bref, j'aurais pas dû partir là-dessus. Tout ça pour dire, les Geek Squad payés par le FBI, c'est fini. Allez, on va parler maintenant. Mais c'est une histoire beaucoup assez triste quand même, Giroptique. Alors, je sais pas si certains d'entre vous avaient vu le test que j'avais fait des caméras Giroptique cet été. On l'avait fait. Donc, c'est une caméra 360. Je vous avais dit ce que j'en avais pensé. Hein, effectivement, le produit était bien, on va dire, dans sa manière de l'utiliser. Il était assez simple à utiliser. Les résultats étaient... ça dépendait en termes de qualité. Bon, le fait est, c'est que la société Giroptique n'y est pas arrivée. C'est con parce qu'ils étaient quand même très, très bien partis. Ils avaient effectivement réussi une belle levée de fonds en 2014 en France et derrière un Kickstarter très réussi quand même pour sortir leur première caméra Giroptique. Et derrière, ils avaient eu le lauréat des entreprises innovantes au CES de Las Vegas et surtout Mark Zuckerberg les avait repérés et avait acheté plein de caméras gyroptiques pour notamment le lancement du 360 chez Facebook. Donc, on va dire que l'avenir de la société paraissait assez radieux. La société Gyroptique avait vendu 20 000 de ses appareils, mais ça n'a pas suffi, effectivement. Est-ce qu'ils étaient trop en avance sur leur époque, comme le dit le fondateur Richard Ollier? Peut-être. C'est vrai que la 360, bon, on en a parlé un petit peu au salon de la photo. Pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas pris au niveau du grand public. J'en parlais avec Sébastien Roignan, qui lui, au contraire, est très enthousiaste sur la 360. Il va bientôt regarder bien sa chaîne F1.4. Il a travaillé sur comment rendre des photos 360 intéressantes et ce genre de choses. Donc, c'est probablement un média qui va trouver sa place, le 360. Ça ne sera pas de la photo, ce n'est pas de la vidéo, c'est une expérience immersive, c'est quelque chose de nouveau. Donc, je pense que oui, il y a un avenir pour la 360. Peut-être pas aussi large qu'on aurait pu le penser à une époque, en disant que tout le monde allait prendre des photos 360 de ses vacances. Moi, c'est un peu ce que j'avais montré dans mon test. C'est que, par exemple, quand vous êtes sur la croisette de Cannes, si vous faites une photo 360, ah, c'est beau, vous voyez toute la croisette, on voit la plage, vous vous tournez. Mais si vous regardez derrière, il y a les bennes à ordures. Et derrière les bennes à ordures, vous avez les voitures de luxe. C'est-à-dire, c'est le problème de la 360, c'est que le cadre, c'est orienté. Le cadre, c'est une histoire. Quand vous faites une photo et que vous cadrez quelque chose, vous racontez quelque chose en disant à la personne qui va regarder la photo, regarde ce que j'ai envie de te montrer. Quand vous lui balancez un 360, vous lui dites, bah, tu peux regarder partout où tu veux. Alors, c'est très beau dans le Grand Canyon, mais c'est pas magnifique de partout. Hein, imaginez un mec qui vous ferait une émission de tech tous les matins et vous verriez tout le bordel qu'il y a dans son appart derrière lui, c'est pas forcément une expérience que vous voudriez avoir. Techscope en 360. Après, attention, je dis pas que ça sert à rien, mais je pense au Gyroptique, mais quelque part, ils ont tenté. On ne peut jamais ni blâmer, ni être triste pour une entreprise qui a essayé. Ils ont cru effectivement à la 360 grand public et que tout le monde allait acheter des caméras 360. Ça ne s'est pas fait. J'espère pour eux, effectivement, les 45 collaborateurs de Gyroptique, qu'ils vont pouvoir rebondir, faire pivot, trouver autre chose avec leurs connaissances. Savoir effectivement apprendre d'un échec est toujours plus précieux que d'apprendre de ses succès. Donc on leur souhaite donc à Richard Ollier et son équipe de trouver les ressources et financières et psychologiques également pour faire un beau pivot, un beau rebond et trouver quelque chose qui marchera mieux que ça. Voilà. On voit déjà le bordel derrière toi, oui, effectivement. Si c'était un bien, on aurait des yeux tout autour de la tête. Ah, moi, si on me donnait l'option de me greffer des yeux de caméléon qui permettent de regarder dans tous les sens, ça pourrait être pas mal, hein. Après, moi, je pense quand même que la 360, il y aura quelque chose. Il y a déjà des choses, hein. Mais je ne suis pas certain que monsieur et madame, pour leurs vacances, vont acheter une caméra 360. Ça ne marche pas partout, la photo 360. On verra de toute façon. On verra. Allez, on continue. Carrefour annonce du poulet blockchain. Mon Dieu, un poulet blockchain. Là, bientôt, on aura des crypto nuggets. Non, Carrefour annonce effectivement utiliser la technologie blockchain pour sa chaîne de traçabilité qui permettra effectivement de connaître la provenance du poulet bien plus efficacement. L'article de Numérama que je vous invite à lire est très intéressant parce que justement, ils ont voulu savoir très rapidement, c'était pas du bullshit marketing que Carrefour annonce la première blockchain alimentaire, en plus jeu de mots, la blockchain alimentaire d'Europe. Et ben d'après l'article de Numérama, non, c'est vraiment effectivement de la technologie blockchain qu'ils utilisent pour effectivement avoir une information de traçabilité beaucoup plus transparente, beaucoup plus sécurisée, et que c'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait, en tout cas d'après l'article de Numérama, et que justement Carrefour va étendre cette technologie maintenant à tous les produits qui ont besoin de traçabilité, où nous, consommateurs, on a besoin de connaître la provenance, on a besoin d'avoir tout un tas d'informations pour notre sécurité alimentaire, pour notre information alimentaire. Donc, plutôt une bonne initiative. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu l'article, je me suis dit « Ah, tiens, Carrefour fait du putaclic avec le poulet blockchain. » Mais d'après ce que j'ai lu dans l'article de Numérama, c'est vraiment… Et ça montre… Alors, Carrefour dit bien qu'ils n'ont pas l'intention de lancer une monnaie hein, avec le blockchain. Vous n'aurez pas le Chicken McNuggets, le coin… Pardon, je voulais dire le coin McNuggets. Vous ne pourrez pas payer en crypto chez Carrefour, mais la technologie, n'oubliez jamais hein, que la technologie blockchain est dissociée des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies utilisent la technologie blockchain, mais on le voit, la technologie blockchain peut être utilisée pour tout un tas d'autres choses, et notamment pour traquer les poulets, hein. Une saine occupation de traquer les poulets. Allez, et on termine cette émission. J'ai une minute pour vous parler, je ne pense pas y arriver. Mais est-ce que dans la chatroom, est-ce que vous vous demandez pourquoi Apple ne fait pas des promos? Pourquoi, quand il y a un Black Friday, il n'y a rien chez Apple? Encore une prétention de la part d'Apple qui se juge au-dessus des autres et qui ne font jamais de soldes et jamais de promos. À part le refurb chez Apple, extrêmement rare, voire jamais, qu'ils fassent des prix. Eh bien, en entendant cette histoire, vous allez comprendre pourquoi. C'est une mésaventure qui est arrivée à un vendeur tiers d'Apple, pas un Apple Store, hein, mais une boîte qui s'appelle manifestement... j'ai pas le nom. Bref, c'est un revendeur Apple en Malaisie qui a eu la mauvaise idée d'annoncer, parce qu'ils étaient en train de fermer ou de déménager, d'annoncer une grande braderie sur des produits Apple en annonçant certains prix à 25$ jusqu'à 514$ sur des vieux modèles d'iPhone 5S au 7, des iPads, des Apple TV, des MacBook et more. Qu'est-ce qui s'est passé? 19h avant qu'il lance la promo. Alors, vous n'allez pas bien. Je vais essayer de vous grandir la photo. Ah, je ne vais pas arriver à grandir la photo. Mais je ne sais pas si vous voyez là dans la galerie marchande, les trois étages de la galerie marchande, il y avait la queue tout autour. Ça descendait jusque dans le parking du centre commercial. Les gens sont arrivés en masse. Plus de 11 000 personnes se sont présentées avant même l'ouverture du magasin pour bénéficier des promos chez Apple. Et d'ailleurs, le magasin n'a pas... Ils ont commencé à ouvrir et ça a été tellement la ruée, ça devenait dangereux. Ils ont arrêté tout de suite parce qu'il y aurait eu un drame. Il y aurait eu... On le sait, hein, il y a quelques années, un Apple Store, je crois, avait fait une promo sur des MacBooks. Il y avait eu des gens blessés et piétinés. Je me souviens de l'article de l'époque, certains employés parlaient de comportements de bêtes sauvages, des gens qui se mordaient pour pouvoir être les premiers à avoir le MacBook en solde, quoi. Donc, ça explique un petit peu pourquoi Apple fait très attention. ben vous l'avez déjà vu, hein, de toute façon, les queues devant un Apple Store. Chaque cette année, putain, c'était super encadré. Hein, que heureusement, moi, j'ai pas eu à la faire. Mais c'était hyper encadré. Ils voulaient pas, justement, qu'il y ait trop la queue dehors. Donc, il fallait prendre un rendez-vous. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas acheter le dernier iPhone, hein, l'iPhone 10. On ne pouvait pas acheter l'iPhone directement au jour du lancement. Il fallait avoir pré-réservé, ils vous donnaient une heure pour venir. Ils ont tout fait. Bah, le Nutella, oui, il y a eu la fameuse histoire du Nutella où on a vu des gens un peu s'engueuler et se battre pour avoir des pots de Nutella en promo. Effectivement, ça peut donner des comportements. Hein, vous le savez, hein, les jours de solde. J'ai dit quoi, file d'attente? Qu'est-ce que j'ai dit? Faire. Je vois cette queue, même pas. Je comprends pas ce que vous dites. Bon, c'est pas grave. Ça marche aussi avec les couches. Bah, tout le monde. Et on a. Alors, moi, ça m'a énervé avec l'histoire du Nutella. Les gens qui étaient là à juger. Oh, mais c'est bête qui se rue sur le Nutella, mais dans quel monde on vit, le consumériste. Mais putain, tout le monde ne gagne pas ton salaire, mec, quand il y a une promo et que tu peux avoir quand même un produit à haute valeur ajoutée qui coûte quand même assez cher et l'avoir à un prix raisonnable et tes gamins te tannent pour avoir du Nutella, machin, bah ouais, tu te bats un peu pour les avoir. Ça m'a un peu énervé, ces réactions sur Twitter de jugement. Oh, ces gens qui se ruent dans les magasins dès que les prix baissent un peu. Mais mon Dieu, quel comportement sauvage. Ouais, bah ça va. Peut-être que toi, avec ton salaire, t'as pas besoin effectivement des promos. Mais voilà, quoi. Après, qu'on reste civique, c'est presque un autre débat. Mais faut comprendre l'engouement des gens quand des produits qu'ils veulent vraiment sont à des prix plus intéressants et pas jugés non plus. De toute façon, d'une manière générale, moins vous jugez, moins on vous jugera. Hein, je sais que je répète souvent ce truc, mais c'est un de mes dogmes, on va dire. Ne juge point, tu ne seras point jugé. Évitez de juger. Évitons de juger. Ce sont les mêmes qui font la file devant les Apple Store. Et je peux vous dire merci beaucoup pour ton super chat, Steve. Merci beaucoup. Le Nutella, quand je dis produit à haute valeur ajoutée, c'était pas un produit de première nécessité, mais c'est un produit qui fait envie, c'est pas un produit de luxe, mais c'est un produit plaisir, voilà, et qui est vendu très cher quand même pour ce que c'est. Bien sûr que le Nutella n'est pas un besoin, mais heureusement qu'on ne vit pas qu'avec nos besoins. Sinon, je vois pas pourquoi on aurait évolué, hein. Parce que à part dormir, faire caca et manger un peu entre les deux, non, je plaisante, je caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Bien évidemment qu'on transcende et que la notion de plaisir, elle existe. Et pourquoi quelqu'un qui n'aurait pas d'argent n'aurait pas le droit à l'accès au plaisir? Ça aussi, c'est un jugement. Attention, quand on dit, mais c'est pauvre, il ferait mieux de s'acheter de la nourriture équilibrée au lieu de s'acheter du mauvais Nutella qui n'est pas un produit de première nécessité. Mais putain, il a le droit de se faire plaisir, le mec, quoi. Bref. Bref, je m'égare. Excusez-moi, hein, parfois, de toute façon, vous me connaissez, hein, je m'égare toujours. Je suis comme le petit pousset de la discussion sans ces petits cailloux. Je pars à droite, je pars à gauche, je pars dans tous les sens. Je suis un feu d'artifice. Pas de questions Platinium ce matin, merci Samuel. Donc on va passer tout de suite, parce que j'ai un petit peu de retard, on va passer tout de suite au vide ton fac. Donc si vous avez des questions à me poser, c'est le moment de me les poser et je vais tâcher d'y répondre. L'huile de palme, c'est de l'huile de palme cultivée en champ, elle est plus saine que celle d'origine. Oui, je vois que le Nutella déchaîne toujours autant les passions. Edgar, c'est pas Jérôme ton prénom, hein? J'ai pas compris. Edgar, c'est pas Jérôme ton prénom, j'ai pas compris. Les Sony A7 III, t'en penses quoi? Bientôt, Johan, abonne-toi bien à la chaîne principale. Tu vas voir bientôt pas que ce que j'en pense moi. Juste pour vous dire, je ne sais pas quand ça va être monté, parce que là, on a un engorgement de montage. On a Microsoft à terminer avant. Mais hier, on a tourné un module avec Olivier Schmitt et avec Albert sur la 7.3. Donc, vous saurez tout. Il est mercredi. Ah, c'est demain, mon anniversaire, Sex and the City, mais merci. Jérôme, tu penses quoi des bridges par rapport aux autres appareils à l'heure actuelle? Moi, j'ai tendance à dire, si tu veux vraiment un appareil avec un objectif fixe, je prendrais plutôt un compact expert qu'un bridge. Pour moi, le bridge, même si j'ai beaucoup aimé le FZ2000 de Panasonic, etc., c'est un peu un compromis bâtard entre tu peux pas changer d'objectif, mais tu as quand même un gros boîtier à te trimballer. Donc, quelque part, pour moi, mais c'est moi aussi, tu as un peu les inconvénients sans avoir les avantages. Donc, j'ai envie de dire, il y a un moment, il faut pas être terrorisé par les objectifs interchangeables. Oui, c'est moins pratique qu'un bridge avec un super zoom dessus, mais la plupart des bridges, l'optique, elle est quand même pas de la même qualité que de ce que tu vas avoir sur un truc à objectif interchangeable. Donc, soit, vas-y à fond, franchis le pas, prends un boîtier à objectif interchangeable, hybride ou réflexe. Soit, si tu veux vraiment pas te faire chier avec tes objectifs et un objectif fixe, prends-toi un compact expert. Mais bon, moi, après, c'est mon conseil. À quoi te servent tes lunettes? Je suis myope. Donc, elles me servent à voir. Est-ce qu'on va tester le nouveau DJI Ronin S? Peut-être, peut-être pas. Demain, cinquantaine. Non, mais ça va pas. Ah non, j'ai pas 50 ans. Putain, franchement, vous êtes lourd, hein, là. Il y a des moments où je pourrais me vexer, hein, quand même. Je sais l'âge que j'ai, je suis très content de l'avoir, je complexe pas dessus. Mais les gens qui me traitent de papy, ça va quand même. Oh, hey, doucement, hein. Jeune con. La vidéo avec Seb, c'est pour quand? Quand elle sera montée, Sylvain? Je ne sais pas quand. Elle sera prête quand elle sera prête. Demain, c'est. Ben, de toute façon, mon anniversaire tombe tous les jours. Attention, c'est la journée internationale. Oui, ben, tu le dis bien. C'est la journée internationale du droit de la femme demain. Et je suis très fier que mon anniversaire tombe le jour. La journée internationale du droit de la femme. C'est tous les 8 mars. Les verres filtrant la lumière des écrans, non, j'en utilise pas. Puis, alors, non, j'y crois pas trop. Très honnêtement, j'y crois pas trop. Il y en a pour qui ça marche, et tant mieux. Hein, si ça marche pour eux. Mais c'est pas parce qu'un truc marche pour vous que c'est une réalité scientifique prouvée. Hein. Quand est-ce que Canon arrêtera de se foutre de nous et innovera? Ah, j'en sais rien, faut leur demander, hein. Mais je suis bien d'accord avec toi. Je ne répondrai pas sur les questions sur mon âge. Oui, je vais avoir 47 ans. C'est bon, voilà, vous avez l'info. Quels sont vos clients types de Nowtech pour la vidéo? Tu veux dire des vidéos qu'on produirait à côté? On en fait de moins en moins parce qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, il faudrait que j'étoffe mon équipe pour reprendre des commandes. Mais on travaillait surtout pour des startups et des entreprises. Quelle configuration prendre pour le MacBook pour les études? Ça dépend de tes études aussi, ça dépend de ce dont tu auras besoin pour faire un ordinateur. Après, MacBook, c'est pas très compliqué, hein, les configs, c'est surtout une histoire de disque dur, si je ne me trompe pas. Est-ce que je compte tester le S9 Plus? Peut-être, peut-être pas. Non, c'est pas la journée internationale de la femme demain. Attention, C'est la journée internationale du droit de la femme. Et c'est ne faites pas comme tous les imbéciles qui vont acheter une fleur pour les nanas demain en croyant que c'est la journée de la galanterie ou c'est la journée où il faut faire attention aux femmes. Non, c'est une cause quand même beaucoup plus sérieuse. C'est sur les droits de la femme à travers le monde. Et justement, ne tombez pas dans les clichés sexistes. Ce n'est pas la journée de la femme demain. Ne vous trompez pas. Ce type est bipolaire, je ne répondrai pas sur mon âge, j'ai 41 ans. C'est pas que je suis bipolaire, mais c'est que je vous connais. Plus je vous dis, je ne répondrai pas à un truc, plus vous allez me harceler et ça va spammer la chatroom. Donc voilà, il fallait bien que je vous lâche un morceau de steak pour que vous puissiez les triper dans la chatroom. Ouais, on a son âge. À quand une vidéo sur la façon de monter des vidéos? Un jour. Tu fais comme Jojol, tu mets tout à fond. Qu'est-ce que j'ai mis à fond? Zut, j'annule ma commande aquarelle. Non, mais tu peux offrir des fleurs, Pascal, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, je le redis, ce n'est pas la journée internationale de la femme. C'est beaucoup plus important que ça. Des droits des femmes, oui. Pardon pour la nomenclature. Pour revenir sur les hybrides, des conseils, j'ai acheté le GX80 avec les trois objectifs et franchement génial. Seul défaut, le Live View d'ancienne génération. Oui, mais le rapport qualité-prix, il est très bon hein, sur le GX80. Bah, je suis content que tu sois content. Prochaine conférence Apple pour le matos, une date est-elle annoncée? Pas à ma connaissance. Ah, très bonne question, Yannick. Les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Eh bien, il faut croire que non. Si on a besoin d'une journée pour parler des droits des femmes, c'est bien que, et même dans nos pays, elles n'ont manifestement pas les mêmes droits que les hommes. Et ça ne va pas. Tu sais que t'es vieux quand on t'offre un pull et que t'es content. Elle est pas mal celle-là. Non, tu sais que t'es vieux quand tu demandes un pull parce que t'as tout ce que tu veux. Déjà. Et j'ai déjà demandé des pulls. Ouais, je suis vieux. Si tu devais conseiller un objectif Panasonic pour le portrait, tu conseillais lequel? Écoute, Marion aime beaucoup son 25, donc équivalent 50 mm 1.8. Moi, j'aime beaucoup mon 42,5, donc équivalent 85 mm, parce que j'aime bien être plus loin pour faire des portraits, et qui ouvre à 1.7, qui a l'avantage de ne pas être ruineux, il est cher, mais pas ruineux. Voilà, ça c'est, on va dire, mes focales naturelles préférées. Après, tu as le 3500 de chez Panasonic F2.8 qui peut être un zoom intéressant pour les portraits. Voilà. Plus que 3 ans avant la Rolex. Putain, je peux te dire qu'il y a plein d'autres trucs que j'achèterais avant une Rolex et... Je pense pas que la Rolex passera par moi. C'est absolument pas mon trip. Faut jamais dire jamais. Tu sais, il y a 10 ans, je m'intéressais pas du tout à la photo et à la vidéo, mais pas du tout. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Donc j'ai des cycles, hein, des longs cycles de passion. Pour peut-être que je me passionnerai pour les montres. On n'en sait rien. Le 14 f/2.5, 14 mm, ça fait du 28 mm. 28 mm pour le portrait, je ne recommande pas. Le grand angle en portrait, il y a des portraitistes qui font du grand angle. Aucun objectif n'interdit le portrait. Vous avez le droit de faire n'importe quelle photo avec n'importe quelle. Mais en règle générale, le grand angle, vu que ça déforme beaucoup les visages, on ne va pas trop l'utiliser pour faire du portrait. Pas trop dur de vivre avec les éclairages, on s'y fait. Hors de question peut-être. Oui, bah c'est bien moi. De toute façon, vous me connaissez, hein. Les apps préférées de prise de notes pour iPad. Écoute, c'est terrible à dire, mais de plus en plus, j'utilise les apps natives. Note, je vous en ai dit tout le bien que j'en pensais. Le Note, avec les progrès qu'il a fait, le Note d'Apple, le petit calepin là, il est vachement bien. Il est tout simple, mais il est vachement bien. J'avoue que j'utilise de moins en moins Note Plus, qui avant était mon logiciel d'écriture préféré. Pareil, j'utilise de plus en plus Rappel et de moins en moins ma to-do list que j'avais avant. Donc j'en arrive à utiliser les produits natifs. Ah oui, c'est à 40 ans hein, qu'il faut acheter la Rolex, pas à 50. Hein. Mais 40, c'est le enfin, 50, c'est le nouveau 40. Comme on disait que le 40 était le nouveau 30 et que le 30 était le nouveau 20. Es-tu au courant des défauts de traitement d'image MacBook Pro Retina 2015? J'ai vaguement entendu parler. Moi, le mien, il est 2017. J'ai aucun problème dessus. Oui, Olympus, mais bientôt on va vous parler d'objectifs Olympus parce que SOS Ciné a rentré des très jolis objectifs Olympus, donc je pense que je les testerai. J'ai dit bientôt, ça ne veut pas dire bientôt. Un jour, peut-être, vous verrez une vidéo sur... Je m'engage à plus rien en vidéo, parce que je ne veux pas vous décevoir et je ne veux pas... En fait, le problème avec moi, c'est qu'il y a les vidéos que j'ai envie de faire, et puis après, il y a les vidéos que je peux faire. Et il y a un peu un grand écart entre les deux. Et en plus, il y a les vidéos que vous aimeriez que je fasse. Et là-dessus, il y a le principe de réalité, les vidéos qui sortent. J'en ai marre un peu du grand écart entre tout ça. Voilà. Un boîtier Olympus ou Fuji à conseiller? Je ne suis pas un expert. À la limite, pour Fuji, demande un pingou sur Twitter. Et Olympus, demande à Tristan, il a testé en Olympus. Mais moi, non, j'ai jamais eu d'Olympus ni de Fuji dans les mains. Ils ne sont pas stabilisés. Oui, on n'a pas toujours besoin de stabilisation non plus. Enfin, de double stabilisation. Parce que n'oublie pas que ton capteur, lui, il est stabilisé dans la plupart de tes appareils micro 4 tiers. Olympus, s'ils ne stabilisent pas leurs objectifs, c'est parce qu'ils ont le meilleur IBIS du marché. La stabilisation dans les boîtiers Olympus, elle est excellente. Faut pas oublier ça. C'est mieux d'acheter un vieux Reflex Pro ou un Reflex bas de gamme récent. Bah, ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend. Vos questions, il faut les reformuler. Allez voir ma vidéo, comment me poser des questions, prenez le temps de formuler. Et surtout, si vous me posez une question sur un appareil, dites-moi d'abord ce que vous voulez faire avec. Et ne me dites pas, je veux tout faire. Parce que alors, la question, je voudrais un appareil polyvalent qui me permettrait aussi bien de prendre des photos de vacances que de faire de très beaux portraits, également faire des vidéos sur YouTube, mais je voudrais aussi faire du documentaire et pourquoi pas sur le côté un petit peu de fiction. Ça n'existe pas, mec. Voilà. Non, c'est pas le même, l'Ibis de Pana et d'Olympus. Enfin, d'après Albert, on a eu d'ailleurs ce débat hier. Moi, je croyais aussi que l'Ibis d'Olympus était le même que Pana. Il m'a dit non, il est bien meilleur sur Olympus que sur Panasonic, l'Ibis. Mais qualité d'image. De toute façon, c'est pas ton bois. Encore une fois, sérieux, les gens, comprenez bien une chose. La qualité de l'image, allez, c'est 20% le boîtier. C'est votre optique qui va faire la qualité de l'image. Après, il faut trouver les bons boîtiers qui vont avec les optiques que vous voulez. Mais je sais que c'est plus compliqué quand on débute, mais c'est les optiques que vous devriez tester. Et c'est un peu pour ça, moi, que je m'associe à un loueur de matériel photo et vidéo, parce que je veux essayer vraiment de vous faire basculer dans cette nouvelle approche consumériste en photo et en vidéo. Et on essaye, là, on se bat avec Albert, on cherche des moyens pour que vous puissiez louer facilement du matériel et des objectifs avant d'acheter, que vous testiez des choses, que vous ne soyez pas arc-bouté parce que vous avez dépensé 3 000 euros dans votre matos et du coup, vous ne voulez surtout pas changer dans les 5 ans qui viennent. Voilà. Je sais que c'est pas simple quand on n'habite pas Paris, c'est pour ça qu'on réfléchit à des solutions. Pour l'instant, On va tester des choses. Mais en fait, le vrai problème commercial, c'est qu'on ne sait pas si les gens sont prêts à payer les envois qui coûtent cher, les envois et la récupération du matériel, en plus d'un prix de location. Et le truc, c'est qu'on travaille sur des formules commerciales. En fait, on réserverait l'envoi de matériel pour des prêts longs. En gros, si vous louez le matos pour 1 ou 2 jours, c'est intéressant pour personne. L'envoi et la réception vous coûtera trop cher par rapport au produit que vous avez loué. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions tout en restant réaliste au niveau commercial. Ça coûte quand même très cher d'envoyer et de récupérer du matos avec les questions d'assurance qu'il y a autour. Est-ce que j'ai essayé le 1442 de Panasonic? Non. Est-ce qu'il est meilleur que le 1232? Le 1232? Le pancake? Je ne sais pas. Je connais pas tous mes objectifs par cœur. Je suis désolé. Ah, il est 9h23. Merci de me le signaler, effectivement. Leica, pour moi, c'est trop cher pour ce que c'est d'un point de vue hardware. Après, je comprends qu'on ait envie de s'acheter. C'est comme les gens qui achètent une belle voiture d'une marque qui coûte cher. C'est un plaisir. C'est un plaisir qui va bien au-delà du plaisir photo. Mais ne croyez pas que parce que vous avez acheté un Leica, vous allez faire des meilleures photos que les autres. Parce que techniquement, même si c'est bon, c'est pas non plus... Je veux plus partir maintenant, je suis bien avec vous. Tu sais, si je pouvais, je passerais la journée à vous parler. Hein. Quel objectif après le 1440 micro 4 tiers pour de la fiction? C'est compliqué parce que ça dépend ce que tu veux filmer, ça dépend de ton budget, ça dépend si tu veux beaucoup de bokeh ou pas. Attention, hein, le bokeh en fiction, faut pas en abuser parce que ça fait des films mous et ça va pour un film romantique, pas pour un film d'action. Ça dépend un petit peu ce que tu veux filmer. Tu sais, le truc, c'est que le choix de tes objectifs... va donner toute la direction artistique de ta fiction. Donc, le mieux, c'est aussi que tu testes des objectifs pour voir le rendu que ça a et si c'est ça que tu veux, quoi. En fiction, il vaut mieux avoir des focales fixes, oui et non. Parce que si tu filmes, par exemple, un film d'action, tu vas préférer... un zoom pour pouvoir t'adapter rapidement et rester dans le cœur de l'action, vraiment travailler avec les cascadeurs et être plus run and gun, tu vois, plus rapide. Une focale fixe, ça va mieux, par exemple, pour des films plus contemplatifs. Donc, voilà, faut tester. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain, rassurez-vous. Demain, ça sera mon anniversaire. Donc, préparez vos petits émoticônes, gâteaux d'anniversaire, etc. Ne cherchez pas à m'envoyer des cadeaux par la poste. Ça va être chiant à aller chercher. Le postier, il sonne jamais. Après, ça m'oblige à aller au bureau postal. C'est chiant. Et puis, c'est compliqué pour vous et j'en ai pas besoin. Si vous voulez faire des cadeaux, bah, pensez à renouveler votre Tipeee si ce n'est pas fait. Vous mettre à Tipeee aussi. Ou voilà, faire un super chat, ça me fera